Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a reçu le docteur Hugo Desjardins, qui est médecin de famille, mais qui a fait une année supplémentaire, dans le fond, un R3 en médecine d'urgence. Puis là, il travaille en Outaouais, là, dans le fond. Puis il est aussi impliqué avec l'Université McGill, le campus Outaouais qui vient d'ouvrir récemment.
Exact. C'était vraiment intéressant de voir comment, avec ce R3-là, il pouvait travailler exclusivement à l'urgence à l'hôpital de Gatineau, qui est quand même une grande ville. C'est vraiment un milieu stimulant. Il nous a vraiment parlé des aspects de travailler un peu plus en région versus en métropole comme Montréal. Puis tout ça, là, ça donne vraiment le goût d'aller faire ça. Donc, je vous suggère fortement d'écouter l'épisode.
Bonne écoute.
Donc, avant de commencer l'épisode, j'aimerais ça remercier notre commanditaire officiel, Archer. Archer, c'est une firme de finance qui se démarque vraiment par sa simplicité, sa rapidité d'exécution et son expertise.
Oui, puis c'est une firme qui est spécialisée en médecins. Donc, n'hésitez pas à les contacter là, si vous avez des questions par rapport aux bourses, à la marge de crédit, à des assurances invalidité ou à des options de placement.
Oui, puis en plus, les rendez-vous sont gratuits. Donc, on met le lien en dessous du vidéo. Pour vrai, vous ne perdez rien à aller les rencontrer. Ça vaut la peine. Donc, merci beaucoup, Dr. Desjardins, d'avoir accepté notre invitation.
Ça fait plaisir.
Donc, nous, on aime ça partir du début. Est-ce que vous avez toujours su que vous voulez aller en médecine?
Oui et non. C'est un peu difficile dans le sens que, tu sais, j'étais toujours été bon à l'école. Fait que quand j'étais au primaire, secondaire, j'avais de la facilité à l'école. Fait que là, tu regardes un peu les métiers, tu penses à l'université, puis tout ça. Dans ma famille, j'avais... Mon grand-père était médecin, je ne l'ai pas connu parce qu'il est décédé avant que mon père était plus jeune. Mais pour mon père, c'était une grande figure importante. Fait que j'ai probablement eu un peu de pression parentale qui me dirigeait vers le domaine de la santé, consciemment ou inconsciemment. Puis je pense que ça, de fil en aiguille, ça a juste venu à mesure que je continuais dans le secondaire, les cours de sciences, on aimait ça. Puis tu sais, réussissait bien à l'école. Fait que mon parcours a vraiment été très, très linéaire. J'ai fait mon secondaire, j'ai gradué. Après ça, j'ai appliqué en diplôme en sciences de la santé. Je viens du Nouveau-Brunswick, donc pour ceux qui ont vu, qui n'ont pas reconnu l'accent initialement. donc, il n'y a pas de cégep. Fait qu'une 12e année de secondaire, puis on rentre directement à l'université. Fait que, puis pour rentrer en médecine, il y a 2 ans préparatoire de sciences de la santé. Qui est un ramassis de cours de sciences pour un peu... épurer les gens qui veulent appliquer. Ouais. C'est l'équivalent du cégep en sciences nature, j'assume. Là. Ouais. Puis, à partir de là, ben, j'ai appliqué en médecine, puis je suis rentré. Fait que ça a été assez... Il n'y a pas eu trop de détours. Là,
non, ça, c'est bien fait. Là.
Dans le processus, en effet.
Puis, en rentrant en médecine, est-ce que vous saviez un peu dans quelle spécialité vous vouliez vous diriger?
Je me souviens que avant de rentrer en médecine, c'était je voulais devenir neurochirurgien, puis faire des grosses chirurgies dans des millimètres carrés, puis tu sais la grosse affaire là. Je voulais être le 1 de 1. Puis là, en commençant ma médecine, mes stages, je me suis aperçu que ça, j'ai mal aux pieds quand je suis debout trop longtemps. Le côté chirurgical, j'adorais le côté travail, c'est ce que ça impliquait, comme la chirurgie et tout ça. Mais le côté être debout pendant trop longtemps, mon TDAH non diagnostiqué, puis mes pieds ne me permettaient pas de le faire. Donc, puis les chirurgies, peut-être vous l'avez déjà fait dans certains stages qui ont fait des chirurgies comme externes, mais il y a beaucoup de trouver mille et une façons de comment pas se contaminer avec ses gants. une fois fait que ça a été un peu éliminé. Puis là, vraiment, dans le décours des différents stages qu'on a fait, tout ce qui était un peu médecine interne, puis ces choses-là, ça impliquait, c'était encore trop, fallait trop penser pour moi, là. Il y a beaucoup de, on voit un patient, là, on pense pendant longtemps, c'était très, très cognitif. Puis pour moi, c'est ce qui m'a vraiment illuminé. J'ai fait un stage aux soins intensifs chirurgicaux. C'était j'avais déjà un intérêt pour les soins aigus, puis tu sais, l'urgence, ça vient un peu de soi pour un étudiant, parce que c'est toujours des nouveaux patients. Fait que quand on apprend à questionner, puis tout ça, c'est comme assez facile de se retrouver dans l'urgence versus quand tu vas voir un patient pré-op de chirurgie que t'as jamais fait ça, tu sais pas trop c'est quoi. Tandis que l'urgence, c'est un peu bonjour, votre raison de consultation, puis on continue. Fait que c'est assez facile de se retrouver, puis j'étais bon, entre guillemets, ça allait bien, puis c'était intéressant. Puis là, quand j'ai fait mon stage de soins intensifs, j'ai fait comme, OK, wow, c'est les soins aigus, ça brasse, il y a toujours des choses à faire qui se passent. Fait que c'est ça vraiment qui m'a fait faire comme, OK, c'est ça qui est ma branche, là.
Puis pourquoi vous avez appliqué pour la médecine de famille avec le plus en urgence versus le 5 ans d'urgence?
Ben en fait, j'ai appliqué pour le 5 ans d'urgence. Vraiment, c'est le seul petit anicroche de mon parcours, dans le sens que j'ai appliqué pour le 5 ans d'urgence. Justement, après, quand j'ai fait ce stage-là de soins intensifs, je me suis dit, c'était à peu près dans le milieu de mon externat, c'était dans le temps où est-ce que je fallait un peu que je décide qu'est-ce que je voulais faire. Puis je me suis dit, OK, c'est vraiment ça que je veux faire, il n'y a pas vraiment d'autres options. Puis le côté prise en charge, suivi, venait pas tant chercher. Donc à ce moment-là, j'ai appliqué pour 5 ans d'urgence. J'ai appliqué à l'Université de Montréal, puis j'ai pas appliqué à Québec, j'ai pas appliqué à McGill. Pourquoi j'ai appliqué à Montréal? Je me suis dit, c'était là que j'ai pas fait en fait de démarche plus que ça, de projet de recherche ou peu importe. Puis je me suis ramassé, ils m'ont pas pris, j'ai rentré en médecine familiale à Sherbrooke, mais c'était vraiment, le but était d'aller faire mon R3 à ce moment-là, si jamais que ça fonctionnait pas. Donc, c'est pour ça que j'étais à Sherbrooke, faire ma médecine familiale versus au Nouveau-Brunswick, où est-ce que j'étais, pour que je puisse connaître le milieu, je connaisse les patrons, tout
ça. Il n'y avait pas de R3 au Nouveau-Brunswick?
Non, ben, nous, à Moncton, on est associé avec l'Université de Sherbrooke.
Oui,
fait que il y a tous les stages, on peut les faire toute la médecine là-bas puis les stages, mais les résidences, il y a juste la médecine familiale. Fait que je suis allé faire ma médecine familiale à Moncton, puis par la suite aller quelque part d'autre, mais je me suis dit, ah ben, tu sais, ils m'ont jamais vu, ils m'ont jamais rencontré, fait que maximiser mes chances, je vais aller voir quelque chose d'autre que ce qu'on fait, puis ça valait la peine.
C'était comment faire la résidence en médecine familiale quand justement vous aviez moins d'intérêt dans les suivis ou les soins qui sont pas vraiment aigus?
Ben ça c'est comme n'importe quoi quand vous êtes étudiant, ou puis comme mon père m'a dit régulièrement quand j'étais en classe puis je m'ennuyais, c'est faut faire son temps. Mais tu sais, on a des, il y a des stages comme la gynéco, l'obstétrique qu'on faisait beaucoup, l'hospitalisation, le suivi de bureau, c'était pas quelque chose qui était particulièrement pas que c'était pas intéressant, mais c'est pas quelque chose que je savais que j'allais nécessairement faire dans ma carrière. Mais tu trouves toujours des façons d'aller chercher des connaissances, aller chercher de comment interagir avec des gens. Voir aussi, c'est pertinent de voir un peu, outre l'urgence, le soins aigus, qu'est-ce qui se passe après. Comme ça, on peut mieux conseiller les patients, puis on sait un peu la trajectoire où est-ce que le patient va aller par la suite. Fait que je sais que si moi je sais que j'envoie quelqu'un en gynécologie, puis j'ai fait un stage de gynéco, puis que je sais que pour, je sais pas moi, une pathologie X, ils feront pas vraiment de chirurgie, ça va être ci, ça, puis ça va attendre, ou peut-être traitement, ben je peux déjà un peu préparer le patient, je peux mieux l'enligner un peu à l'urgence. Fait que c'est quand même pertinent de faire d'autres choses. Puis on fait pas de suivi à l'urgence, mais le système étant ce qu'il est, beaucoup de gens qui n'ont pas de médecin de famille. Fait que, tu sais, avoir une certaine idée de comment faire la médecine de famille, c'est quand même, c'est pas une perte, aucunement, là.
Puis, je sais aussi que présentement, le R3 en urgence, c'est quand même vraiment contingenté également. Comment vous avez fait pour aborder ça? Est-ce que vous avez fait des démarches pour vous démarquer durant la résidence?
J'étais juste super bon. non, sérieusement. ça a juste vraiment tombé que j'étais un peu chanceux, parce que dans mon année, l'année juste avant moi, il était, je pense, à Sherbrooke, je pense qu'il était 12 ou 13. Puis ils ont coupé à 7 mon année. Puis l'année d'après, ils ont coupé à 4.
Oh wow.
Fait qu'ils ont vraiment... J'ai tombé dans l'air où est-ce que le couteau a passé. Puis là, les postes augmentent un peu. Puis je pense que l'intérêt pour la médecine d'urgence a pris de l'essor depuis le dernier 5-6 ans. Puis ça fait 5 ans que j'ai... Ça fait 8 ans maintenant que j'ai appliqué au R3. Là. Fait que ça fait déjà quand même un bout de temps. Fait que je pense que l'essor de la médecine d'urgence commence à prendre vraiment plus d'ampleur ici, qu'on le voit. Fait qu'à ce moment-là, je pense que j'ai tombé juste dans le bon moment. Ça a sûrement aidé que j'avais fait mes 2 années de résidence à Sherbrooke. Je connaissais beaucoup les patrons. Ça tombait que le gars qui a fait une de mes lettres de référence était sur le comité qui prenait notre... qui décidait qui est-ce qui rentrait. Fait que j'étais quand même, il me connaissait bien, puis je pense que ça joue là-dedans. Fait que c'est sûr que pour n'importe qui veut rentrer dans un programme contingenté, le dossier académique, c'est super important. Il y a les notes, tout ça. Il y a comment l'entrevue va, mais aussi à personne égale, si on connaît la personne, on sait comment elle est. Ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Des fois, ils savent les côtés. les moins bons côtés. Mais en général, c'est toujours pertinent. Là.
Puis pourquoi ils avaient coupé les places dans vos années? C'était-tu parce que c'était trop attrayant versus la résidence de 5 ans?
Ben ça, ces places-là sont octroyées par le ministère. Fait que, c'était dans le temps de la réforme Barrette, là, où est-ce qu'ils ont tout changé. Ils voulaient... Moi, quand j'ai gradué de ma médecine familiale en 2016, c'était vraiment le moment où est-ce qu'ils ont sorti tous les médecins des hôpitaux, les médecins, les spécialistes, les médecins de famille... fait qu'ils voulaient plus d'hospitalisation, puis qu'ils voulaient en sortir les médecins de famille des hôpitaux pour les mettre en bureau. Puis même quand j'ai commencé à travailler avec mon R3, il y avait des obligations de prendre des patients.
Est-ce que vous en avez encore de ça, des obligations d'avoir des cliniques?
Je pense que ça s'est dissipé. Je pense qu'il y a certaines dérogations qui peuvent être faites, mais je sais que, par exemple, dans mon année, si j'avais fini comme médecin de famille sans mon R3, j'allais avoir 1000 patients à ma charge minimale. Puis là, vu que j'avais mon R3, j'avais le droit d'avoir seulement 500 patients. Je pense que c'était 500, puis j'avais le droit de 250, ou quelque chose de ce genre-là. Mais ou que je pouvais faire des 3 shifts par mois dans une clinique sans rendez-vous réseau. C'est ça que j'ai fait, moi, à ce moment-là. Mais ça a duré un an. Jusqu'à temps que là, on puisse avoir une dérogation spéciale, puis que le ministère, quand ils ont changé de gouvernement, ben là, ils ont un peu brassé les cartes, comme ils font un peu toujours. Fait que toutes ces histoires-là de postes, de prem, de places en résidence, c'est très gouvernement dépendant. Fait que c'est un peu fluctuant, mais en général, dépendamment de ce qui est quoi les besoins là, de la population. Là.
Puis est-ce que vous saviez de ce moment-là que vous vouliez travailler en région?
Ben, je ne travaille pas en région, je travaille dans la ville de l'Outaouais. C'est la 4e plus grande ville au Québec. Là. Je peux pas dire que c'est une région nécessairement.
Je suis d'accord, mais selon le reste du Québec, souvent, c'est la région.
Oui, c'est à l'ouest, c'est proche de l'Ontario, il y a des Anglais là-bas, ça mélange les gens. mais en fait, moi, je viens du Nouveau-Brunswick, fait que ma famille est toute là-bas. J'étais à Sherbrooke, j'aimais beaucoup la ville, le look, puis le centre universitaire, j'aimais bien ça. Fait que j'ai essayé de vouloir travailler là-bas. Finalement, il n'y avait pas vraiment postes disponibles ou sont assez difficiles à rentrer à Sherbrooke parce que c'est une grosse université, fait qu'il y a beaucoup de gens qui restent. Puis, à chaque année, il y a la journée carrière des résidents là, au Palais des Congrès parce que c'est comme une grande foire là, de chaque région. Sont là puis ils offrent leur poste un peu. Vous allez y aller dans quelques années sûrement. L'Outaouais a un énorme kiosque. Il y a des tables, il y a de la musique, il y a de la lumière partout. On veut le attirer du monde. Tandis que des autres régions, est-ce qu'il n'y a pas manque de monde? Montréal, il y a une petite table dans un coin, il y a de la poussière, puis personne qui est là. Mais là, quand j'avais deux collègues qui étaient avec moi dans R3 qui venaient de l'Outaouais, puis qui revenaient. Puis là, eux autres disaient « Ah oui, on a un poste, j'ai un poste. » Je dis « Ben, je suis aussi bon que les autres. Je peux avoir un poste, moi aussi. » Fait que j'ai été voir, puis là, j'ai parlé un peu, j'ai visité, puis ils m'ont pris. Puis depuis ce temps-là, ça fait 5 ans que je suis là.
Puis c'est comment commencer à pratiquer dans une nouvelle ville?
C'est le fun. Tu commences à zéro complètement. C'est le système québécois, fait que c'est pas franchement... C'est un peu différent de chaque endroit, mais tu sais... en général, ça se rejoint quand même pas pire. J'avais fait un stage un peu quelques mois avant que je finisse ma résidence là, fait que moi, je connaissais un peu les milieux. Mais c'est sûr que c'est une adaptation. C'est comme quand vous allez en stage à l'externat dans un nouvel hôpital, un nouveau département. Personne ne vous connaît, tout le monde vous regarde un peu. Vous êtes qui? C'est quoi les papiers? Sont où les papiers, les choses? Fait que c'est un peu complexe. Puis au niveau de la ville, encore là, ça fait 5 ans que j'habite là, commence à découvrir les endroits, puis tu finis comme n'importe où, là, tu finis par avoir les 5 mêmes endroits que tu vas toujours, puis que tu réalises pas qu'il y a plein d'autres choses disponibles. Mais oui, c'est intéressant. Ça fait différent. Puis je pense que c'est important, le plus que vous pouvez dans votre formation, avoir aller à différents endroits, parce que chaque place fait de la médecine un peu différente. Mm-hmm. Puis on gagne beaucoup à avoir différentes façons de faire les choses, puis de pouvoir être capable de trouver notre façon à vous, puis à toi-même de le faire. Parce que sinon, tu prends tous les bons plis. Exemple, tu es toujours au CUSUM, mais tu prends tous les bons plis du CUSUM, mais tu prends aussi tous les mauvais plis du CUSUM. Mm-hmm. Puis quand tu vas ailleurs, ben, tu fais comme, oh, les autres, ils font ça différemment. Des fois, c'est mieux, des fois, c'est pire, mais ça vaut la peine.
C'est intéressant.
Tu es capable de voir comment c'est fait, c'est ça, ailleurs, pour avoir plus d'outils un peu.
Oui, exactement, parce que ça se peut que tu vas rester toujours dans le même hôpital. C'est pas toujours le cas. Habituellement, les gens vont quelque part d'autre ou leur carrière les amène partout, un peu partout. Mais voir quelque chose de différent, tu deviens juste un meilleur médecin parce que tu n'es pas toujours dans l'habitude, dans tes vieilles pantoufles, puis ça te challenge un peu. Fait que c'est un beau challenge, c'est intéressant.
Puis là, votre horaire, il ressemble à quoi? Faites de l'urgence, temps plein, aucune clinique, aucune pratique de familiale?
Non, je fais de l'urgence à temps plein. Parce que j'aime pas beaucoup le sommeil, puis que j'aime pas beaucoup avoir du temps trop libre. Ce qui est fun avec l'urgence, pour nous, à temps plein, l'urgence, puis je suis à peu près pareil dans tous les départements, c'est environ 12 chiffres par mois. Fait que 12 gardes de 8 heures par mois. 12 à 14, ça dépend des endroits. Pour un temps plein. Tu peux en faire plus, évidemment, si tu veux. Tu peux en faire moins, tu tombes un peu comme membre associé, mais 12 à 14. Fait que tu vas travailler 2 semaines dans ton mois. Oui, tu as des jours, soir, nuit, puis ça peut être un peu tout croche, là. Mais après ça, fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'urgentologues qui vont faire de la gestion, de l'enseignement, des tâches administratives ou d'autres choses à l'extérieur, parce qu'on a du temps sur la semaine. Je ne vais pas toujours travailler, tu sais, un interniste, un pneumologue, mais il fait sa clinique de 8 à 4 tous les jours. Des fois, il est de garde, des fois, il fait de l'hospit. Mais habituellement, la semaine, ils ont toujours quelque chose des autres spécialités. La majorité, là, sauf exception. Fait que tandis que nous autres, ça arrive souvent que je fais tous mes chiffres, puis ça se peut que j'ai juste 4-5 jours off, tu sais, sans raison nécessairement, juste parce que c'est des jours comme ça. Fait que, en plus de l'urgence, fait que je fais de l'urgence à temps plein. Je suis aussi directeur médical du centre de simulation au campus Outaouais. Puis je suis responsable de site pour l'externat à l'urgence. Fait que puis un peu directeur, un peu des stages qui viennent à l'urgence aussi. Je m'occupe un peu de ça, je participe avec un autre. Puis dans quelques comités de notre urgence, comme l'éducation médicale continue. Ça fait que ça donne. Il y a des réunions qui apparaissent une fois de temps en temps. Puis je suis quelques comités avec mes guides aussi pour chaque. C'est ton des comités de simulation, fait que ça vient s'ajouter. Fait que l'horaire, habituellement, est assez plein.
Mais ça fonctionne vraiment par shift?
Oui.
Puis est-ce que vous avez des gardes aussi dans le mois ou pas vraiment?
Non, non, vraiment, c'est une autre beauté de l'urgence, il n'y a pas de pagette. Ça n'existe pas. dans le temps de COVID, on en a fait au cas où des gens qui étaient malades, tout ça, c'est exceptionnel, mais en général, tu travailles tes 14 chiffres, 16 chiffres ou peu importe. Lundi, mardi, tu travailles, jeudi, tu travailles pas la fin de semaine, y a personne qui va t'appeler, y a personne qui va te déranger, t'es chez vous, tu fais ce que tu veux, tu t'en aller en vacances, parfait, pas de problème. Puis c'est des gardes, nous c'est des gardes, on fonctionne en garde de 8 heures, différents endroits, ils travaillent, des fois c'est des gardes de 12, des fois c'est des gardes de 16, si c'est moins occupé, comme la nuit, habituellement. Des fois, c'est des 24 heures, c'est vraiment pas trop occupé. Dans différents, vraiment des plus petits centres, là, comme en région périphérique. Là.
Où ils peuvent dormir.
Si ouais, c'est ça. Habituellement, tu vas voir peut-être une vingtaine de patients dans la journée, dans 24 heures, parce que c'est pas trop. Mais c'est une garde de 8 heures, puis fait que c'est 12 à 14 gardes de 8 heures par mois.
Puis avez-vous une bonne flexibilité pour choisir ça va être quand vos gardes?
Nous autres, oui. Je sais que notre département, c'est super pour ça. Là. Mais c'est vraiment un département dépendant. Plus que ton département a de monde, a de gens dedans, plus que on sait qu'il y a des gens qui font des nuits, qui en font plus, qui en font moins. Puis dépendamment, c'est quoi les règlements du département, ça peut différencier. Mais je sais que nous, moi, par exemple, je peux demander mon temps off, là, c'est très 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 rare qu'il y ait permettent pas de l'avoir. Tant aussi longtemps que tu fais tes chiffres, t'es correct. Puis, tu sais, il y a beaucoup de flexibilité pour échanger entre collègues. Là, on s'échange toujours nos gardes. Puis, c'est beaucoup plus facile que dans d'autres spécialités que quand ta journée de bloc, c'est le mardi. Mais ta journée de bloc, c'est le mardi. C'est difficile de la changer pour le jeudi. Parce que, tu sais, ça implique tout le préopératoire puis tout le kit. Là. Tandis que moi, si je travaille demain matin puis que je peux pas pour X, Y raison ou que je veux pas, mais je peux essayer d'échanger avec quelqu'un. Mm-hmm. C'est sûr que c'est pas toujours possible, mais puis il y a des gardes qui sont plus populaires que d'autres, mais...
celle de jour plus que celle de nuit,
je veux dire. Les chefs de nuit sont plus... Une fête de semaine de nuit est plus difficile à échanger qu'un mardi de jour, disons, mais ça peut s'arranger.
Puis sinon, est-ce que tout le monde, tous vos collègues sont soit fait de la résidence en 5 ans ou le R3, ou il y a aussi des médecins de famille qui travaillent sans avoir fait ces formations-là supplémentaires?
Chez nous, c'est quand même assez mix, mais là, on a quelques FRCP de 5 ans. On a 2, je pense. Puis on a 5-6 R3 ou peut-être 7-8. Puis le reste, c'est tous des médecins de famille qui sont là depuis un bout. Il y en a qui l'ont fait, qui ont eu des clauses grand-père. C'était un mix, mais la majorité de notre staff, c'est à peu près comme prendre moitié-moitié. Là. De plus en plus, on favorise les R3, mais c'est pas toutes les...
Ouais, il en manque.
Il n'y en a pas beaucoup. Puis on est un peu en manque de personnel, fait qu'on peut pas nécessairement dire qu'on va juste prendre les R3 quand il y en a 15 de formés dans Québec. Là.
Ouais.
À un moment donné, ça parle. Puis tu sais, la différence entre un R3 et un R2, disons à l'urgence, et oui, dans les premiers peut-être 4-5 ans, parce qu'on a une année d'exposition de plus, puis certaines formations un peu plus spécialisées, entre guillemets, mais. Tu fais de l'urgence à temps plein pendant 3-4 ans, tu vas rattraper ton collègue. Mm-hmm. Si tu fais de la formation continue, tu fais tes choses.
L'expérience va s'accumuler de toute façon.
Exactement. Fait que c'est sûr qu'au début, c'est probablement plus rough, dépendamment comment ta résidence a été faite. Là. Je sais que moi, dans ma résidence, j'ai fait deux stages de soins intensifs avec 3-4 stages d'urgence. Fait que j'ai quand même une bonne exposition aux soins critiques. Des stages sont intensifs où j'avais beaucoup d'exposition puis que je faisais plusieurs choses. Mais ça fait que j'en ai fait plus que d'autres, mais c'est variable. Fait que ça dépend comment t'es confortable aussi. Là.
Même l'année comme supplémentaire, tu sais, un an, ça doit passer vite quand même. Là.
Oui.
Comme à quel point vous vous sentiez prêt, mettons, quand vous êtes sorti?
Ben ça, c'est très personnel. Ouais. Chaque personne vont dire, il y en a qui vont faire 15 ans de résidence, ils vont jamais se sentir prêts. C'est vrai, c'est comme la première fois que tu fais du basic puis qu'ils enlèvent les petits trous. Là.
Ouais, ouais.
Tu te sens pas prêt, puis une fois que tu pédales, ça va pas pire. Tu vas te planter, ça va arriver. Moi, personnellement, je suis rendu à la fin de mon R2. Au moins R2, honnêtement, je pense que j'aurais été plus ou moins confortable. Je m'aurais senti. Oui, je pense que j'aurais été capable d'avoir une confiance à ce que je faisais, mais je sentais qu'il m'aurait manqué quelque chose. Puis que j'aurais été pas à l'aise s'il y avait des gens vraiment malades. Rendu à peu près mars-avril de mon R3, j'étais comme OK, là, je me sens correct, comme je vais prendre les derniers stages, c'est bon, mais tu sais, rendu à ce point-ci, je sens que je suis à ma place, puis que je sais où que je m'en vais, puis je vois les choses à apprendre, c'est clair, mais j'ai hâte de commencer pour vraiment comme. Pouvoir faire comment moi je vois les choses versus comment mon patron voit les choses.
Mm-hmm. Puis, j'ai une question vraiment pratique sur le travail. C'est comment avoir des patients que souvent, vous savez, par exemple, les envoyer s'ils doivent être admis sur les étages.
Oui.
Puis, vous n'avez pas rendu finalité avec le patient. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
Oh, oui, oui,
oui. C'est comment cette notion-là de pas en savoir ce qui va arriver, puis qu'on n'a pas rendu closure avec le cas puis le patient.
C'est très personnel à chacun. Moi, personnellement, pas que ça me dérange pas, je suis intéressé de savoir ce qui se passe. Les gars plus malades, tu vas vouloir avoir des fois un petit follow-up, tu peux suivre un peu à distance. Mais en général, ça fait mon mindset est vraiment de mon travail, c'est la partie aiguë, diagnostic, stabiliser, orienter. Après ça, c'est la POC est passée à quelqu'un d'autre. Mais j'ai plein de mes collègues qui vont faire des suivis, qui vont aller voir des radiologies, qui vont demander aux spécialistes. Puis des fois, ça m'arrive. Je crois aux spécialistes. « Hey, ce patient-là, finalement, qu'est-ce que c'était? » Puis ils vont me dire « Ah, ben c'était ci ou ça. » Ça permet aussi de Puis c'est intéressant d'avoir le feedback aussi. Je pense que ça vaut la peine de parler aux spécialistes ou parler aux consultants pour être comme « Hey, c'est lui que je t'ai envoyé, c'était-tu vraiment ça? C'est-tu correct? » ou puis ça va juste te rendre meilleur parce qu'ils vont pouvoir t'enligner. Puis il n'y a rien de pire qu'une consulte qui sert à rien. Là. Pour toi, parce que tu étais comme « Ah, shit, j'ai envoyé une consulte de merde. » Mais aussi pour le patient, parce qu'il a vu quelqu'un, il a passé 12 heures de plus à l'hôpital, ou il est revenu dans 2 jours pour voir un spécialiste, puis ça sert, puis il fait rien finalement, ou ça sert à rien. Fait que c'est pas. Puis pour le système aussi, là, on s'entend que ressources limitées, on essaie de ne pas les gaspiller, idéalement.
Puis moi, j'ai une question similaire à ça.
Oui.
C'est comment de justement. Comme toujours, j'ai l'impression que vous êtes toujours en train d'attendre une place pour tel patient, ou justement une consulte pour. Tel patient, c'est comme vous dépendez beaucoup du reste de l'hôpital. Est-ce que ça...
C'est un des, en guillemets, les plus gros irritants du travail, c'est que souvent mon travail est facile ou relativement facile parce que en termes de côté médical comme tel, le patient A vient pour présentation X, je le vois, je l'évalue, je fais mes labos, tout ça. Je sais qu'est-ce comment je vais l'évaluer. Puis comment je veux l'investiguer, puis je sais un peu comme, puis je sais comment je veux le traiter. Mais là, je demande mon scan, là, il n'est pas disponible avant une couple d'heures. Fait que là, ça prend du temps. Là, je demande certains médicaments, puis là, ben, tu sais, ça se fait pas parce que XY la pharmacie, ou le staff est débordé, il manque de staff pour faire certaines prises de sang, ou choses comme ça. Là, on veut prendre un patient qui aurait besoin d'un lit, mais il n'y en a pas. Fait que tu sais, ça, c'est ça qui alourdit. Notre travail. Fait que, tu sais, oui, c'est. Dans mon idéal, tu sais, ça serait comme dans une usine, là, c'est une courroie, là, tu sais, ils passent un peu les autres, puis tu fais tes choses, puis là, ils vont juste revenir pour finaliser. Mais ça fait partie de notre travail, heureusement ou malheureusement, tu sais, c'est ça qui est le challenge de l'urgence dans un milieu public, là, où est-ce qu'il y a des chats. Puis c'est un peu ça qui. C'est plate, mais en même temps, c'est un peu le fun. Parce que si c'est juste, je vois le patient, je pars d'une investigation, puis je l'envoie à quelqu'un d'autre, c'est pas pour ça que je fais de la médecine, être juste un trieur de luxe. Là. Ouais. Je veux traiter des patients, je veux comme les enligner comme il faut, essayer de limiter le plus possible leur, comment ils vont rentrer dans le système, puis je peux les traiter comme le mieux possible sans qu'ils soient hospitalisés ou qu'ils utilisent trop de ressources. Fait que ça, c'est un challenge que moi, j'aime. Mais oui, c'est toutes les frustrations qui viennent avec il n'y a pas de place, il n'y a pas de lit, les patients, ça roule pas, ça roule carré. Fait que au lieu d'en voir, je sais pas moi, 15-16 dans une journée, mais t'en vois 8-10-11 parce que t'as été obligé de te promener toute l'urgence pour faire des choses. Ouais. Ça fait partie de notre quotidien. C'est un des irritants, mais on est pris avec, malheureusement.
C'est la réalité.
Ouais.
Puis, vous pensez, c'est quoi les avantages d'aller travailler dans un centre comme Ottawa versus dans une grande ville comme Montréal? Est-ce que c'est similaire, différent, sur quel...
Je pense que c'est... Encore là, ça dépend de quel centre à Montréal ou à Québec que tu parles. C'est sûr, si tu parles à Sacré-Cœur ou CHUM, c'est différent que, exemple, travailler à Jean Talon, pour dire quelque chose à Montréal. Mais moi, ce que j'aime, comme je disais, vraiment, dans mon centre, il y a comme un petit chaos, mais organisé, une petite dysfonctionnalité qui fait que ça rend ça intéressant du sens que quand je demande une consulte en cardiologie, ça ne prend pas 5 minutes, elle n'est pas déjà faite par 6 résidents. Qui sont déjà là. C'est exemple pour des gros centres universitaires. Si j'ai un drain thoracique à mettre, ben, je vais appeler le chirurgien, il va dire ben mets-le, puis, ou sinon je viens dans comme 4 heures. Fait que, il y a beaucoup de débrouille-toi. On a de l'aide quand on a besoin, mais il y a beaucoup de choses que je vais faire, moi personnellement, ou que j'ai besoin d'organiser, que dans un centre universitaire, ça se fait juste tout seul, puis on envoie ça à l'autre. Quand il y a un gros trauma, c'est moi, mon collègue, si on est Joe. Peut-être que le chirurgien va venir si on l'appelle ou les orthopédistes, ils vont venir, mais ils ne viendront pas tout de suite automatiquement. Je me souviens, tu étais à Sherbrooke, là, une réanimation, là, c'était pour l'urgentologue, c'est plate. Parce qu'il y a un gros trauma, exemple, il appelle le code trauma, mais il y a le résident junior, senior de chir, le patron, junior, senior d'anesthésie, le patron, les soins avec le junior, senior, patron. Là, tu as l'urgentologue, t'as le résident qui est avec lui, t'as le collègue qui vient JET, qu'est-ce qui se passe, l'autre résident qui dit « oui, vas-y, va voir », l'externe qui est là aussi. Donc là, on est rendu à comme 14 docteurs pour le patient. Fait que toi, comme urgentologue, ben, t'as tous des spécialistes en théorie plus compétents dans certaines procédures. Mm-hmm. Fait que tu fais, ça pue à grand-chose nécessairement, mais ça va plus vite. Puis j'ai fait des stages de trauma où est-ce qu'il y avait un urgentologue qui m'a consulté parce qu'il y avait une blessure, un coup de couteau à la cuisse qui était proximal au genou. J'ai dit, proximal au genou, moi j'étais en trauma. Il dit, c'est consulte trauma. Dit, oui, mais il y a juste une plaie, là, comme juste check sa jambe, puis il répare sa plaie. Il dit, ah, proximal au genou, consulte trauma. Puis il est parti faire d'autres choses. OK, oui, mais c'est pas ça que moi je veux. Moi personnellement, c'est pas ça que je veux faire. Fait être dans un centre où est-ce que c'est comme ça, je serais sûrement malheureux. Là.
Ouais.
Fait que pour moi, c'est un avantage.
Ça rend ça moins répétitif puis plus challengeant.
Ben, je dis, ça, oui, puis ça te fait faire de la médecine que... Moi, j'aime ça quand, personnellement, quand il y a un, pas que ça va mal, mais que ça brasse, mm-hmm. puis que ça soit un peu... qu'il y ait plusieurs choses en même temps, du monde instable, du monde malade. C'est pour ça que je fais ce job-là. Mais... Il y a d'autres gens qui vont dire que non, moi, quand je demande pour le chirurgien de venir mettre un dent thoracique, perdre 45 minutes, mettre un dent thoracique, ça m'intéresse pas. Je veux faire voir d'autres gens puis rouler mes affaires. Fait que, tu sais, il y a une balance. Puis c'est vrai que c'est le fun de mettre une voix centrale, mais ça me prend 45 minutes. Pendant que je fais ça, il y a personne d'autre qui voit du monde. Fait que c'est une balance à avoir. Fait que c'est le fun pour le personnellement, mais ça limite le flow. Ça fait rouler carré, comme je disais.
Puis sinon, je sais aussi qu'à Ottawa, l'été passé, l'urgence était fermée pendant un moment. Fait que c'est comment aussi travailler dans un milieu aussi qui manque d'employés un peu, parce que c'est pas juste les médecins qui manquent, c'est vraiment tout le staff, je pense, de la santé.
Encore là, c'est un challenge. C'est comme la pénurie de personnel, ça frappe partout. Là. Mm-hmm. On n'est pas. L'Outaouais n'est pas unique en son genre, mais oui, ça fait les nouvelles parce que oui, l'urgence a fermé, puis il y a eu de la mauvaise presse pour différentes choses. Mais c'est un système public, le système québécois, c'est comme qu'ils disent l'expression en anglais, « same shit, different pile ». En Ottawa, on a certains challenges, qu'à Montréal, vous avez d'autres challenges.
Mm-hmm.
Puis aller travailler, exemple, à l'urgence du CHUM, il y a des choses que probablement que je voudrais me frapper la tête sur les murs, puis que d'autres choses que j'adorais, puis travailler à l'urgence à Ottawa, je me tape la tête sur les murs pour d'autres choses.
Mm-hmm. Est-ce que vous ressentez cette pression-là? Moi, c'est plus ça, est-ce que... Genre, il y a un poids, un fardeau de comment vous n'êtes pas beaucoup, fait, vous devez plus travailler ou des choses comme ça, ou c'est...
Nous, du côté médical, il y a toujours une certaine pression de « il faut voir du monde ». Veux, veux pas, peut-être pas tout le monde qui se la met, mais moi, je la mets quand j'arrive dans une... Tu sais, souvent, je fais beaucoup de nuit. Quand j'arrive la nuit, puis il y a 25 patients à voir, ben, je suis comme « OK, ben, je dis au monde, on va y aller cette nuit parce qu'il faut voir du monde.
Mm-hmm. »
Puis on roule, puis comme le but, c'est de donner service aux gens ultimement. Fait que vraiment, oui, on a toujours cette pression-là, puis on voit la liste de monde dans l'attente qui s'allonge, on voit les patients qui sont couchés sur le civière qui augmentent. Fait que oui, il y a cette pression-là de « faut voir du monde ». Le manque de staff, tu sais, je peux pas travailler tout seul dans une urgence.
Mm-hmm.
Je peux mettre 15 médecins, s'il n'y a pas le staff infirmier, auxiliaire, commis, préposé, entretien ménager, sécurité ou peu importe, là, aide de service pour faire rouler tout ça, je vais regarder un écran d'ordinateur. Puis, moi, ma job, c'est penser. Mais tout ce qui est prise de tout le reste, j'ai pas de technicien en radiologie, ça me prend 3 heures à faire un rayon X. Mais je peux pas aller faire un rayon X moi-même. Je peux y aller, mais je ne sais pas comment ça marche, puis ça ne sert à rien.
Mm-hmm.
Fait que, ça vient affecter. Fait que, puis ça fait une pression, les gens arrivent, ils attendent longtemps, ils sont un peu fâchés. On essaye des fois, on se dit, OK, mais là, si ça me prend longtemps à avoir un rayon X, est-ce que je veux vraiment un rayon X?
Mm.
Fait que, c'est toutes des choses que, quand on est étudiant, on ne pense pas.
Mm-hmm.
Puis c'est la grosse différence que j'ai vue entre être étudiant et être patron, c'est ça.
Mm.
Tout le côté... administratif de la patente. Quand tu es externe, résident, ton focus, c'est patient, diagnostic, traitement, avoir une bonne évaluation. Puis après ça, on pack nos affaires, puis on s'en va à la maison. Puis tu sais, essayer de survivre là-dedans, puis faire nos lectures. Mais tu sais, j'ai tout, moi, tout le côté gestion de... des infirmiers, les infirmières qui viennent te voir, ben, ce patient-là, tu veux-tu le prioriser? J'aimerais que tu priorises lui. J'aimerais que tu vois lui. Ben, je l'ai couché là, dans cette salle-là. Mais je suis comme, ben oui, mais c'est pas son tour. Tu sais, je vais le mettre dans la salle de réanimation. Il peut être dans la civière. Tu sais, tout, on n'a plus de place. OK, il faudrait ce patient-là. Il a probablement besoin de moniteur cardiaque. Ouais, ben, on n'en a plus, on n'a pas de place. OK, ben, OK, est-ce que c'est correct? Ou, tu sais, ajuster les choses. Puis, encore là, puis tout penser. Comment ce patient-là, je peux le limiter son nombre de minutes dans l'urgence. Fait que des fois, quand la pression est forte, des fois, ben, ça fait des congés qu'on fait comme, OK, ben, c'est correct, I guess, là. Puis le patient est correct avec ça, mais tu sais, dans le monde idéal, probablement qu'on aurait peut-être admis ou qu'on aurait peut-être observé pendant 24 heures, mais que là, on peut pas, puis tu sais, ou que c'est limité, fait qu'on choisit un peu nos ressources-là, fait qu'on... C'est un gros jeu. C'est un gros jeu de Tetris un peu, où, tu sais, comment organiser les choses, mais c'est ça qui est c'est un autre challenge de la job.
Puis je vous écoute parler, j'ai l'impression qu'avec ce volume-là puis ces pressions-là qui viennent de plusieurs directions, ça doit faire qu'un chiffre de 12 heures, c'est quand même long. Là, puis dans le sens que, est-ce qu'à la fin d'un chiffre de 12 heures, mettons, versus au début, des fois, ça affecte comment vous allez répondre à certains cas. Tu sais, il faudrait pas, mais en réalité...
Ben, oh oui, ça, c'est pour ça que, tu sais, quand on lit les études de plus en... quand tu regardes les études, puis tu regardes les taux de burn-out qui, souvent, dans les urgentologues, sont dans les plus hauts, là, on ne mentira pas. On a une profession qui est intense psychologiquement et physiquement, là, surtout en termes de switch de chiffre, puis voir toujours des nouveaux patients, puis la pression du système, parce qu'on est comme l'entrée. Fait que ça, on veut pas, on ramasse un peu là, n'importe quoi. Mais oui, c'est pour ça qu'ils disent souvent faire des chiffres 8 heures, c'est un peu le maximum que ta concentration peut faire. Mm-hmm. Quand tu tires tout ça, oui, ça se fait des 12 heures, ça se fait des 16 heures. Là, mais c'est sûr, je le vois là, quand je finis mes nuits, là, t'sais, au début, je vois un patient, puis à la fin, je sais que le patient qui est comme 8h30 ou 9h, j'essaie de déclarer mes cas. Puis là, il y a un patient que j'ai vu la nuit, puis là, je sais pas trop ce qu'il y a, puis là, il y a comme... Ça fait un bout qu'il est là, puis j'essaie de déclarer mes cas, puis comme finir mes affaires pour les enligner, puis là, lui, je sais pas trop quoi faire avec. Puis là, je vais le voir, puis là, on a comme une discussion un peu ensemble, parce que lui aussi, il a dormi, passé la nuit debout. Puis là, comme, il y a un peu souvent, il y a souvent une entente entre les deux qui fait comme, garde. Je suis fatigué, t'es fatigué, on va trouver une solution ensemble. Ouais. Pour comme, mais tu sais, oui, c'est souvent des fois comme. Puis je m'aperçois, des fois, je fais un congé, puis là, pour une raison ou une autre, souvent super valable, le congé marche pas parce que le patient, il y a pas. Il y a quelque chose, là. Mm-hmm. Puis là, je suis comme. Ah! Je suis comme frustré. Mais tu sais, puis ça fait partie encore de. C'est des défis. C'est des défis, c'est des challenges. Des chiffres comme ça, puis c'est normal qu'à la fin de tes chiffres, tu veux essayer de régler tes choses ou pas donner plein de patates chaudes à ton collègue non plus. Parce que laisser plein de patients à revoir ton collègue, mais c'est des patients encore là qu'il faut qu'il refasse au complet, qu'il peut pas voir des nouveaux patients. Fait qu'encore là, ça joue dans le retarde. Système. Fait que c'est essayer de limiter le plus possible notre côté émotionnel, mais on est tous humains. Fait que il y a des journées où tu te lèves de mauvais pied. Puis que tu sois à l'urgence ou n'importe où, ta journée est désagréable, ton enfant pleure toute la nuit ou peu importe. Là.
Moi, je me demande aussi, parce que j'ai l'impression que j'ai pas encore fait de stage en urgence, que j'ai genre une image, et comment ça bouge le temps, fait beaucoup de choses, mais comme concrètement, est-ce qu'il y a beaucoup de procédures que vous faites avec vos mains ou c'est genre un mix ou pas vraiment? Parce qu'il y a des traumas, ça rentre pas à chaque 2 secondes.
Non, clairement pas. C'est super variable. Puis en fait, ça va dépendre de comment toi tu vois un chiffre occupé. Moi, je vais souvent dire que ça fait longtemps que j'ai pas eu de gros cas, c'est comme si relax, me semble je suis dû pour quelque chose, t'sais, un gros cas. Mais que quand tu penses en rétrospect, tu as eu une couple de patients en salle de choc qui allaient comme pas trop bien, puis tout ça, mais que tu as juste fait comme ok, c'est un choc septique, j'ai mis des amines, puis c'est comme correct. Là.
On dirait habitué.
Non, ben c'est ça, fait que ça dépend. Puis, tandis que j'ai des collègues qui disent oh non, j'ai eu un super gros chiffre, puis comme j'étais avec, puis j'ai comme ben non, c'était tranquille, là, dans ma tête, mais tu sais, c'est assez variable. Mais tu as des journées, c'est n'importe qui, n'importe quand, n'importe quoi. Là. Fait que tu as des journées que tu vas avoir plein de procédures. Tu vas faire des sutures, puis tu vas réparer des fractures dans la longueur de journée. D'autres journées que tu vas rien du tout. Ça dépend, tu sais, comment l'urgence est organisée. Des fois, tu sais, nous autres, on fait des chiffres de juste d'ambulatoire ou des chiffres des aires civières qui couvrent les aires de réanimation, puis tout ça. Fait que c'est des aires plus civières réanimation, mais tu as plus de chances d'avoir des gros cas. Le jour, souvent, tu sais, ça va, ça brasse un peu moins. Le soir, souvent, ça brasse un peu plus. Là. Des fois, tu pognes le restant de la journée, mais comme en soirée, les accidents, ça arrive plus le soir. La nuit, tu es plus tranquille, souvent, en termes de comme gros cas ou gros accidents. Mais quand il y en a, souvent, ben, tu es tout seul, il y a moins de ressources, fait que c'est un peu plus intense, entre guillemets. Fait que ça varie de chiffres, ça varie de période d'année, ça varie de. Mais c'est ce qui est le fun, c'est que c'est, tu sais jamais ce que tu peux avoir, c'est toujours varié. Fait puis ça peut être des prostituées, tu vois, en fait, il y a eu un bout, j'ai mis, je pense, comme 6 voies centrales dans comme un mois, puis après ça, j'en ai pas mis depuis. Fait que, ça vient toujours comme en paquet, des fois, t'as un bout, puis fait c'est un autre challenge de garder tes capacités de procédure, que ça fait un an que j'ai pas fait ça, ben OK, ben, on recheck sur la vidéo sur YouTube, puis on le fait.
Il y en a beaucoup qui nous disent d'aimer le, tu sais, pour choisir une spécialité, il faut aimer le bread and butter de cette spécialité là. C'est quoi le bread and butter d'urgence?
C'est difficile à dire, ouais. Parce que je dirais c'est comme l'urgence, c'est un peu comme un buffet. Il y a de tout, mais c'est jamais la super qualité de tout, des fois. Dans le sens que tu vas jamais comme tu sais avoir quelque chose de super super précis dans une affaire, mais c'est un peu, c'est vraiment de tout. Puis, mais c'est sûr qu'on a les cas typiques, là, les histoires de DRS, les histoires de dyspnée, les maux de ventre. Mais encore là, tu sais, un mal de ventre, c'est super large. Je vais avoir des mal de ventre d'un gars de 40 ans, puis un gars de 60 ans, puis un gars de 8 ans, puis un gars de 25. Ça peut être toute la même chose, toutes des choses différentes. Fait que le bread and butter, je pense pas que c'est tant, pour l'urgence, je pense pas que c'est tant le bread and butter que. Le genre de pression comme d'environnement psychologique puis physique que ça apporte. T'sais. Plus que tu as besoin comme personnalité ou comment que tu gères l'incertitude puis cette pression-là de toujours avoir du monde à voir, plus que le bread and butter. Je pense que c'est plus ça qui pique un peu l'horaire un peu atypique, un peu tout croche, là. C'est plus ça qui va être un challenge pour ta continuité de carrière. Que le bread and butter, t'sais, oui. Tu travailles en urgence plus pédiatrique ou plus santé de la femme ou psychiatrique. Mm-hmm. Comme à Gatineau, il y en a deux hôpitaux. Il y en a une qui est plus psychiatrie, pédiatrie, gynéco, puis un peu plus les personnes âgées. L'autre côté, c'est plus trauma, cardio, néphro, puis ortho. Fait que, dépendamment où est-ce que tu travailles, tu peux avoir un peu de un peu plus d'une chose, un peu moins. Mais encore là, c'est pas tous les chiffres que je vois de la psychiatrie, c'est pas tous les chiffres que je vois de la pédiatrie non plus.
Parce que c'est les gens qui sont emmenés par ambulance, que les ambulances vont savoir où les dispatcher, mais quelqu'un qui vient à l'urgence par lui-même, il va se présenter à n'importe
où. Il peut rentrer n'importe où, mais en théorie, ils savent un peu plus. Là, okay. Souvent, ils finissent par connaître le système un peu, mais ça arrive souvent qu'on a des enfants qui arrivent à Hull parce que c'est à côté de Hull, puis ils filaient pas bien. Fait, mais fait que ça arrive régulièrement, là, un peu comme à Montréal ici, évidemment. Là. Pas tous les hôpitaux qui vont le patient sur pied ne va pas à la bonne place tout le temps parce qu'il n'est pas à côté, nécessairement.
Il faut comme l'essayer puis voir si l'environnement puis le type d'horreur nous convient ou pas.
Ouais, vraiment, je pense que c'est plus ça parce que c'est tellement... oui, tu as du bread and butter, de petites choses, mais tu sais, c'est un bread and butter qui est tellement variable dans différentes spécialités. C'est difficile de dire que... Ah, t'es obligé d'aimer les DRS, sinon tu vas trouver ça long à l'urgence. Ben, OK, oui, mais il y a plein d'autres choses que tu vas faire pour les 3-4 DRS que tu vas voir dans ton chiffre. Là.
Ouais.
Mais oui, fait que, puis je pense que c'est vraiment l'environnement, puis comme le chaos organisé, c'est ça que si tu peux, si tu aimes ça, puis tu thrives là-dedans, puis tu peux gérer ça, là, c'est une bonne place. Mais si pour toi, t'sais, ça bouge trop, il y a trop d'affaires en même temps, tu peux pas te concentrer, c'est difficile, ou t'as de la misère à comme, t'organiser dans ta tête pour comme faire 3-4 choses en même temps.
Ça marchera
pas. Tu peux, j'ai pas tous mes collègues qui sont, ou gens qui font de l'urgence, qui sont nécessairement comme, tu sais, qui pensent comme moi, qui sont mindés de cette façon-là, mais tu sais, c'est plus difficile à long terme, probablement, qu'à un moment donné, tu vas faire comme, OK, ouais, je t'ai soufflé.
Ouais, ouais.
Puis quelque chose d'autre qu'on s'est fait souvent dire par des gens qui ont une spécialité qui font pas de chiffre de nuit, mettons.
Ouais.
C'est qu'eux, ils s'étaient dit, faire des chiffres de nuit dans ma trentaine, dans ma quarantaine, OK, mais penser long terme à comme 50 ans, ils se disent, j'avais l'impression que, genre, je pouvais pas cope avec ça, puis ça allait plus me tenter. Comment vous voyez ça?
Ben, j'ose espérer que rendu dans ma cinquantaine, je vais encore être capable, mais,
ouais.
Mais c'est sûr que, c'est prouvé ça aussi scientifiquement que les gens qui font des chiffres de nuit ont plus de problèmes de santé.
Okay.
Ça joue sur l'humeur, ça joue même sur l'espérance de vie jusqu'à un certain point, qui en font à long terme, je parle.
Mm-hmm.
Mais ça dépend aussi comment ta vie est organisée puis comment ton sommeil est organisé.
Mm-hmm. Ouais.
Moi, je suis quelqu'un qui, heureusement, je peux dormir n'importe où, n'importe quand. puis j'ai pas besoin nécessairement de... Je suis personne assez énergique de base. Fait que j'ai pas besoin d'avoir 8-12 heures en ligne pour être fonctionnel. J'ai d'autres de mes collègues qui manquent une journée, qui font une nuit puis sont scrap pour deux jours. Là. Mais, fait que tu sais, oui, prendre ces personnes, ça va être plus difficile. Ça dépend de ta situation familiale. Si tu as 50 ans et tu as des jeunes enfants, ça se peut que les chiffres de nuit vont être difficiles. Mm-hmm. Mais si tu as des enfants qui sont plus vieux ou tu n'as pas d'enfants ou peu importe, à ce moment-là, peut-être que c'est plus facile. Fait que c'est vraiment très, très personnel. Moi, je sais que je fais plusieurs nuits. J'arrive souvent, là, je viens me coucher vers comme 11h30, là, midi. Une heure des fois, dormir avec 3-4 heures, je fais comme 5-6 heures, manger, puis redormir une autre 2 heures après, faire une petite sieste, puis je m'arrange pas pire avec ça.
Ça fonctionne bien pour l'instant.
Mais tu sais, je mentionne ça à d'autres gens, puis ils m'ont regardé, comment tu fais? Fait que je peux pas. Je suis pas nécessairement le meilleur modèle pour ça, ça mais tu sais, c'est encore là, c'est personnel à chacun.
Il faut bien se connaître.
Ouais, c'est ça.
Pour savoir si nous, on serait capable de faire ça ou non.
Puis il y a pas. Tu sais, c'est un métier qui est exigeant. Psychologiquement, mais aussi physiquement, il faut savoir, pour pouvoir avoir une carrière là-dedans, il faut se connaître.
Mm-hmm.
Il faut savoir jusqu'à où on peut aller, puis qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, je sais que je peux faire des chiffres de soir, puis travailler du jour au lendemain, puis je sais que je peux coller des chiffres, puis m'arranger. Ça me dérange pas, je sais que je suis capable de le faire présentement. Peut-être que dans 10 ans, 15 ans, je vais avoir un autre discours, là.
Mm-hmm.
Mais puis ça, c'est une autre histoire. Puis, mais il faut être capable de s'écouter, peu importe votre spécialité, c'est s'écouter. Parce que y a la pile de choses à faire puis de patients à voir est toujours à l'infini. Fait que je pense qu'il faut travailler fort, puis je pense que on a un devoir de donner un service à la population. Mais en même temps, faut pas se brûler non plus. Puis c'est la santé mentale puis le burn-out, on en parle de plus en plus. Je pense qu'avec raison. Puis la médecine est un métier qui échappe pas là, à ça. Là. C'est, que ce soit les études, que ce soit la résidence, que ce soit... l'externat, la pratique, c'est une carrière où est-ce que toujours tu as des décisions à prendre. Fait que tu sais, faut se connaître, puis il faut être capable d'aller chercher, de s'organiser en fonction qu'on puisse travailler à long terme.
C'est ça, parce que pour rendre un service à la population à long terme, on n'a pas le choix, là, c'est ça de s'écouter pour pouvoir maintenir ce rythme-là.
Exactement, puis tu sais, c'est sûr, c'est sûr que dans ta vingtaine, tu n'as pas d'enfant. Ben, tu sais, vas-y, là, tu sais, t'as l'énergie, tu veux, puis tu sais, c'est super stimulant, t'as plein d'incitatifs de travailler, tu sais, tu vas apprendre, tu sais, t'aimes ça, c'est payant, tu sais, ça va être, tu sais, t'as des dettes à payer, tu veux céder ta vie, tu sais, c'est facile de dire, OK, ben, je vais prendre 2-3 chiffres par mois, puis à la bout de la ligne, ça fait une belle différence, ta paye à la fin de l'année. Fait que, tu sais, c'est plein d'incitatifs de le faire. Mais encore là, il faut que tu trouves ton équilibre. Puis éventuellement, souvent, tu ralentis un peu quand tu es soit enfant ou d'autres projets qui viennent embarquer dedans.
Mm-hmm. Puis moi, avant qu'on finisse, là, j'aimerais ça qu'on parle du nouvel hôpital qui va se construire en Ottawa. Fait que c'est quoi qui se prépare là-dedans? Puis...
Ça va être le plus meilleur hôpital du monde. Mais en gros, on a... ils veulent faire un nouvel hôpital. Ça fait longtemps là, qu'ils en parlent. On devrait avoir un hôpital neuf dans 7 à 10 ans. Là. C'est ça qui est le but. Là. C'est un peu similaire à ce qu'ils ont fait pour le CHUM, peut-être pas en termes de grosseur, mais dans le sens qu'on veut vraiment. Ils se basent sur le CHUM, ils se basent sur le CUSUM qu'ils ont fait, différents hôpitaux qui sont nouveaux. Je pense que c'est un besoin pour la population en termes de. On a un manque de lits, on a un manque d'accès à certaines ressources. Puis, tu sais, je pense que pouvoir grandir, répondre mieux aux besoins de la population, puis définitivement, c'est attirant. Mm-hmm. Un nouveau centre hospitalier. Là. Oui, oui. Fait que, tu sais, je pense que n'importe qui veut travailler dans un centre, tu sais, un endroit où il y a beaucoup de possibilités de créer ses propres choses, ce qu'il veut avoir. Puis c'est le fun, c'est comme un nouveau départ.
Ouais.
Fait que, tu sais, des fois, c'est difficile de déplier les mauvais plis quand tu es dans ton building parce que tu as des limitations structurelles.
Mm-hmm.
Mais là, tu sais, on peut partir à neuf. Puis vraiment, je fais partie de quelques, comme, tu sais, j'ai été quelques réunions sur différentes choses, mais tu sais, qu'on choisit littéralement où est-ce qu'on met les lavabos puis les toilettes. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment assez bâti. C'est ça, ben, c'est sur mesure, tu sais, comment qu'on peut mettre notre input dedans. Fait que, tu sais, c'est super stimulant comme projet, puis tu sais, avec la faculté de médecine de McGill qui est en Outaouais aussi, ça fait plein d'opportunités pour moi, mais aussi pour mes autres collègues puis les gens qui veulent venir en Outaouais, parce qu'on a l'enseignement, ça fait 5 ans que je pratique, j'ai déjà, je suis impliqué, j'ai des postes que jamais je pourrais avoir dans une autre université, juste parce que il y a une certaine hiérarchie puis une seniorité qu'il y a, puis mon homologue au Steinberg à Montréal avec McGill, c'est docteur Banji à peu près là, qui fait un peu la même chose, mais il y a une liste de publications qui est long comme mon bras. Puis on est comme un peu collègues, un peu un rôle similaire dans notre centre, c'est à plus petite échelle, mais c'est intéressant d'avoir des accès à des postes où est-ce que tu peux faire une différence, puis tu peux changer des choses. Fait que c'est ça qui est super intéressant puis motivant d'avoir des nouvelles choses. Puis, tu sais, on sent qu'il y a l'énergie là, pour la région. Puis, on espère que les gens vont suivre cette énergie-là puis venir nous voir.
Ouais, ça donne le goût,
hein, clairement. Ouais, merci beaucoup. Est-ce que c'était
ça me fait plaisir.
Une super discussion.
Ouais, c'était vraiment une belle rencontre. Ouais. Sinon, pour nos gens qui nous écoutent, on n'aime pas, on aime, on partage, on commente. Si vous avez des questions, vous pouvez nous laisser en dessous des vidéos. Sinon, à la semaine prochaine.
Parfait, merci.
Merci.